Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Rock and Page sur Radio Clapas 93.5 FM à Montpellier, sur Valais FM aussi, cette fois sur le 98.4 à Marne-la-Vallée, sur le 88.2 FM de Radio Grille Ouverte à Alès et enfin sur le 93.9 de Divergence à Montpellier encore. Marie-Pierre Soriano aux commandes de ce nouveau numéro de Rock and Page, votre magazine littéraire pas comme les autres. Pourquoi pas comme les autres? Eh bien parce que pour partager mes coups de cœur littéraires en tout genre, je chronique bien sûr, j'interviewe les auteurs dès que cela est possible et surtout, et tout est là, je vous propose d'illustrer mes propos tout au long de l'émission par un fil conducteur musical. Alors bien sûr c'est subjectif, hein, mais pas plus que le reste, j'ai envie de vous dire quel titre pour vous restituer tel ou tel personnage, quel musicien pour vous donner envie de suivre une plume, quel univers musical pour entrer dans un tel ou tel univers littéraire ou un univers de bande dessinée. Voilà, et comme l'actualité bouillante nous conduit tout pile à Angoulême et son festival international de bande dessinée, j'ai choisi de vous causer cette fois d'une bande dessinée. Et quelle bande dessinée, mes amis? Il s'agit de Oui, mais il ne bat que pour vous, d'Isabelle Pralon, parue chez l'association. Et parce que la vie est aussi bien faite, Isabelle Pralon en personne a accepté pour vous et pour moi de répondre à toutes mes questions d'ici une poignée de minutes. Alors, si j'ai un bon conseil à vous donner, là, tout de suite, enfermez vos enfants dans les paniers de linge sale, coupez vos téléphones portables et toutes les autres connexions de la maison ou de la voiture et laissez-vous guider. Nous allons entrer ensemble et pendant une demi-heure au cœur d'un roman graphique exceptionnellement fort et incroyablement touchant qui en musique pourrait peut-être se vivre comme ça. Là.
It's a story, but that's why I'm here, to tell you stories. So, picture the scene.
Begin.
The turn of the day, when all music fools come out to play, until the drunk turn of night. So many stories to hear, so many cheeks to greet, and beautiful faces.
They were building, but no one could say. Thank you for a lovely evening.
at the turn of the day, when words become syllables, will you remember again?
I ask myself that question all the time.
At the turn of the day, when words become syllables, will you remember again?
How do you remember that?
Something I shall never forget.
We now resume our regularly scheduled program.
C'était Wax Taylor et Charlotte Savary avec Our Dance pour vous dire on musique l'univers de Oui, mais il ne bat que pour vous, le dernier album d'Isabelle Pralon, publié chez l'association et faisant partie, excusez du peu, de la prochaine sélection d'Angoulême. Alors, comment vous causer comme il faut de ce trésor-là ? Peut-être en commençant par vous restituer l'œuvre d'Isabelle Pralon, qui est suisse, notée au passage, et même si je ne suis pas sûre de vous la livrer dans son intégralité, elle est l'auteur de L'éléphant et de Ficus, et d'un travail à quatre mains mené avec Aurélie William Levaux qui s'intitulait Prédiction. Notez aussi que L'éléphant avait reçu le prix Top Fair en 2007. Allez, Zou, là je suis au pied du mur et faut que je me lance. Alors je vais, une fois n'est pas coutume, commencer par vous lire ce poème intitulé « Oui, mais il ne bat que pour vous » d'Einer Müller, sur lequel Isabelle Pralon a dû s'appuyer pour construire son album. Puis-je déposer mon cœur à vos pieds ? Si vous ne salissez pas le plancher, mais mon cœur est propre. C'est ce que nous verrons. Je n'arrive pas à le sortir. Voulez-vous que je vous aide ? Si ça ne vous ennuie pas, c'est un plaisir pour moi. Moi non plus, je n'arrive pas à le sortir. Pleurniche. Je m'en vais procéder à l'extraction, sinon pourquoi aurais-je un canif ? Il n'y en a pas pour longtemps. Travailler et ne pas désespérer. Bon, eh bien le voilà. Mais c'est une brique, votre cœur. C'est une brique. Oui, mais il ne bat que pour vous. Voilà, le ton est donné. Et sachez, en outre, que chaque chapitre porte pour titre une réplique de ce dialogue. Et qu'y a-t-il donc dans ces très courts chapitres ? Eh bien, je dirais une jeune femme prénommée Lucie, qui a une sœur, qui, cette sœur, élève elle seule ses ados, ses deux ados, et le petit de la voisine. Une jeune femme, donc Lucie, qui a un mec un peu paumé, mais fort attachant et très désireux d'avoir un enfant. Une jeune femme qui a perdu un grand frère, et dont la mère vit dans le souvenir de celui-ci. Une jeune femme tellement forte et faible à la fois. Une jeune femme tellement bien peinte dans cette interstice-là qu'elle pourrait bien être vous, moi, nous. Et l'album s'ouvre par cette courte fable qui compte le fait que pour aboutir à la sagesse et la paix intérieure, il faut rencontrer le singe qui est en soi, le faire asseoir et boire un thé avec lui. Et cette quinte du singe, Isabelle Pralon nous la restituera en dessinant pour vous et moi les rêves de cette jeune femme que nous suivons, cette Lucie, des rêves dans lesquels elle se trouvera confrontée à tout un bestiaire, mais pas que, nous y reviendrons. Le fil conducteur du voyage de cette jeune femme est sa propre rencontre avec la maternité, et moi, je ne vous dirai pas un mot de plus, histoire de ne pas déflorer la surprise, la force de cet album. Le trait d'Isabelle Pralon restitue ce dont je vous parlais il y a une seconde, à savoir cet interstice ambigu, subtil, mais si juste, qui se situe entre les forces et les failles de cette jeune femme magnifique. Et du coup, eh ben, il n'est pas confortable d'entrer dans cet album-là. Il faut faire un effort, se battre un peu contre soi-même, dépasser nos goûts feignants pour le conformisme et ceux que l'on connaît déjà par cœur, ce qui nous rassure en somme, qui nous demande surtout absolument aucun effort. Et cet interstice en musique, moi je dis, il pourrait bien se traduire comme ça.
Without the key, yeah.
C'était Saint-Germain, souvenez-vous donc, pour vous dire toute la justesse, la force, la folle ambiguïté qui réside dans l'observation que nous livre Isabelle Pralon de cette jeune femme, cette Lucie, son personnage qui cherche son singe intérieur, qui cherche à l'intérieur d'elle tout autant qu'à l'extérieur, la route à emprunter, les expériences à accumuler qui lui serviront à arriver à devenir mère ou pas. Mais il est grand temps pour moi d'arrêter là ma chronique pour lui laisser la place à Isabelle Pralon. Isabelle Pralon, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation dans Rock'n'Page. Alors je vais commencer par une question très générale. Comment est entré le dessin dans votre vie ?
Bonjour, oui, le dessin est dans ma vie d'aussi loin que je me souvienne, parce que c'est vrai que j'étais une petite fille qui dessinait beaucoup. Je dessinais des personnages avec que je découpais ensuite, avec lesquels je jouais, et ça avait l'avantage... je pouvais, en fait, chaque fois qu'il me manquait un élément, un personnage, une voiture, quoi que ce soit, je pouvais le dessiner, le rajouter à mon dessin. Et depuis lors, c'est toujours resté, en fait. J'ai toujours continué à dessiner d'une façon ou d'une autre, à être toujours dans le récit dessiné.
Alors, votre album, oui, mais il ne bat que pour vous, est construit autour ou sur le canevas d'un... Alors, on peut dire un poème, mais on dirait aussi du théâtre, hein, bien sûr, c'est de Heiner Müller. Et je crois aussi que sur Prédiction, que vous avez fait avec Aurélie William Leveau, vous aviez travaillé autour d'aphorismes de Peter Handke. Alors, comment naissent ces ponts entre la littérature et vos travaux en graphisme ou en bande dessinée ?
Mais... c'est très simple, en fait. Ce sont des textes que je lis au hasard des rencontres que je fais ou des pièces que je vais voir. Et puis, à partir du moment où ils font écho chez moi, où ils allument quelque chose, je les garde un peu comme ça sous le bras. Et puis, de temps en temps, ils ressortent, ils resurgissent. C'est ce qui s'est passé pour le poème de Heiner Müller. J'avais vu une pièce dansée qui était inspirée de ce poème, donc je l'avais gardé dans mon atelier. Et ensuite, quand j'ai commencé à élaborer le projet du livre « 8 mai », j'avais déjà commencé mon projet en fait autour de la fable bouddhiste du singe intérieur, mmh. avec des épisodes où le personnage cherche son singe à l'intérieur et puis des épisodes à l'extérieur. Et tout à coup, m'est revenu en mémoire ce poème et je me suis dit que j'allais le poser en fait sur cette structure sans bien savoir où allaient tomber les vers, où allaient tomber ces différentes phrases, et je voulais voir ce que ça allait donner. Donc il s'est un peu surajouté alors que le projet était déjà un petit peu entamé. Mais ça s'est fait de centrer, un peu comme une fulgurante. Tout à coup, je me suis dit, ça, il est très beau ce poème, il parle un peu des mêmes choses, ça crée des liens un peu au-dessus, un peu en dessous. Donc je vais essayer de me mettre dessus, de voir ce que ça donne.
Alors, dans votre album aussi, Lucie, le personnage que vous mettez en scène est plutôt, on va dire, jeune. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai imaginé comme tel. Et vous nous la montrez, donc, cheminant vers la mère qu'elle pourrait devenir, au cœur de sa propre histoire de vie à elle. Est-ce que vous-même, vous avez eu besoin de temps pour l'écrire et la dessiner, cette histoire-là, en particulier ?
Ça m'a pris pas mal de temps, parce que j'ai aussi un fonctionnement en pointillé avec pour mon travail en atelier. Donc c'est vrai que j'ai assez vite eu la relation entre ces deux femmes, puisque c'est l'histoire de deux sœurs, l'une plus jeune et l'autre plus âgée. J'ai eu assez vite les personnalités de chacune qui se dessinaient. Ensuite est venue la structure. Après, le temps, c'est en effet le temps de mettre tout ça noir sur blanc, que tout prenne corps, devienne réalité. Ça m'a pris à peu près une année et demie, mais vraiment en travaillant, pas toute la semaine, bien sûr, parce que je fais d'autres choses aussi.
Alors, le fait de faire reposer la narration sur de très nombreux courts chapitres ou des scénettes vous a permis d'évoquer de très très nombreux sujets, tous très éloignés les uns des autres, mais tous aussi très proches de nos vies à nous, lecteurs. Est-ce que vous éprouvez souvent ce besoin de ne pas vous enfermer dans un seul sujet ?
Oui, je crois que c'est vraiment ma façon de travailler. Je n'arrive pas, ou avec beaucoup de difficultés, à me lancer dans le dessin avec une histoire qui est déjà totalement écrite du début à la fin. Généralement, j'essaie de mettre au point une structure, même si elle est plus ou moins contraignante. Et puis après, une fois que la structure est bien posée, que le squelette est bien solide, bien en place, j'aime pouvoir m'y poser en me laissant beaucoup de liberté, justement, pour sauter d'un événement à une autre, d'une scénette à une autre.
Alors, vous avez aussi choisi une alternance qui rend le récit très, très fort entre la vie réelle, celle qui est ancrée dans le quotidien, et puis la vie intérieure et onirique de Lucie, pour retracer son chemin vers sa propre découverte. Et justement, alors, les rêves de Lucie, ils sont peuplés d'animaux. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a permis ce bestiaire onirique, en fait ?
Pourquoi, je ne sais pas trop. Je sais que j'avais envie de dessiner beaucoup d'animaux parce que j'ai l'impression que c'est dans mon monde à moi ce qui me relie le plus fortement à l'enfance, donc peut-être au rêve, peut-être à cette liberté où tout à coup il y a des animaux, ça nous paraît tout à fait normal qu'ils soient là, qu'ils nous adressent la parole, qu'ils fassent un bout de chemin avec nous. Et puis c'était simplement une envie, quoi, de les dessiner, une envie de dessiner beaucoup plus d'animaux.
Bon, et alors cette fin, alors, comme un hommage au cinéma, une fin qui tranche en tout point avec l'intégralité de l'album, que ce soit au niveau des graphismes, le texte qui se fait quasiment absent, l'insertion de ce tout petit écran, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire ?
Ça participe un peu de la même démarche que pour le poème. C'est une fin que j'avais retranscrite il y a quelques mois en lien avec une pièce de théâtre dans laquelle on m'avait demandé de participer. Et je l'avais gardée forcément en tête et dans mon atelier. Et au fur et à mesure que l'histoire avançait, j'avais de plus en plus de flashs qui me revenaient de cette scène de Gina Rowland que j'évoque déjà un peu au début du livre.
Oui.
C'est le garçon, il y a une scène où ils sont au bistrot et puis il raconte cette scène de façon assez succincte. Et puis tout à coup, ça m'a semblé comme une évidence qu'elle devait figurer en fin de livre, même si, comme vous le dites, ça tranche vraiment beaucoup avec le reste du récit. Mais je trouvais pas mal. C'est comme un peu une chute dans le vide ou un truc qui nous déséquilibre un peu sur la fin. J'aimais assez cette idée-là aussi.
Mais c'est ça. Mais enfin, même avant cette insertion-là de ce monde-là, c'était déjà une fin qui nous laissait, nous, lecteurs, un petit peu comme ça, les pieds dans le vide. Et puis là, vous en remettez, vous rappuyez là où ça fait mal. Non, c'est réussi. Alors, Angoulême, la sélection officielle 2012, comment vous le vivez, cet aspect-là de votre travail?
C'est plutôt réjouissant parce que c'est encourageant, c'est toujours, ça veut dire que des gens qui ont vu votre livre ont pensé que c'était une bonne voie, que certaines questions ou certains chemins que j'ai choisi de prendre sont en tout cas à suivre. Donc oui, c'est toujours encourageant, c'est bien, ça fait du bien.
Isabelle Pralon, merci infiniment tout d'abord pour Oui, mais il ne bat que pour vous, qui m'a vraiment, vraiment bouleversée. Et puis merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui dans Rock and Page. Vous ne couperez pas à la dernière question, la question Rock and Page, à savoir quel titre de musique ou quel musicien choisiriez-vous pour évoquer en musique et sans les mots votre bande dessinée?
Ma grande chouchou, c'est Pidgey Harvey, donc c'est la première qui me viendrait à l'esprit.
Très bonne réponse. C'était Isabelle Pralon au micro de Rock and Page. Elle vient de nous parler de Oui, mais il ne bat que pour vous, paru chez l'association et en compétition à Angoulême, version 2012. Je rajouterai enfin que je ne peux que vous conseiller de vous procurer ce magnifique album, de faire l'effort d'entrer dans l'univers graphique de son auteur et de suivre Lucie dans cette accumulation d'expériences qui est sa vie, comme les nôtres, au moment de sa propre rencontre avec elle-même, devenant ou se faisant à l'idée de devenir mère. Oui, mais il ne bat que pour vous est un monument, vraiment, il a un effet sacrément long sur moi, je le porte comme si on m'avait offert un bijou que je trouverais vraiment très beau, mais surtout pas clinquant, un bijou juste taillé pour l'intime, pour moi, peut-être pour vous. Rock and Page, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Bruce de Radio Clapas, à la technique. Retrouvez tous les anciens numéros de Rock and Page sur le blog de l'émission au http://thisisrockandpage.blogspot.com. Restez bien à l'écoute de vos radios engagées qui vous offrent encore, et Dieu merci, le pouvoir de vous faire des idées tout seul, nom d'une pipe. Alors surtout en ces temps-là, ne nous laissons pas embobiner. Deux annonces avant de boucler complètement ce numéro de Rock and Page. Le festival Montpellier 100% se déroulera à Montpellier, donc du 1er au 11 février, et il vous offrira une programmation musicale et d'expo multimédia de qualité et super riche. N'hésitez pas à vous rendre sur le site du festival. Et à noter aussi que Deus, le fameux et grand groupe de rock, sera à Victoire 2 à Montpellier le 9 février prochain. Allez-vous! N'oubliez pas de vous procurer Oui, mais il ne bat que pour vous, la bande dessinée d'Isabelle Pralon, parue chez l'association. Je vous laisse en compagnie de Morshiba, qui vous diront eux aussi, avec leur musique, toute la force de cet album. Prenez bien soin de vous et à tout bientôt pour un nouveau numéro de Rock and Page.
Thank you.